d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Bonjour Anastasia.
Bonsoir.
Alors ce soir, nous allons parler bien sûr du problème de la Grèce, hein, puisque Anastasia est comédienne, elle nous présente un spectacle qui s'appelle La flottille de Grèce à Gaza. On en parlera à la fin de cette émission. Mais avant tout, on va parler du problème de la Grèce aujourd'hui, puisque vous avez bien compris qu'en Europe, des plans d'austérité vont bon train dans tous les pays, surtout les plus démunis dans Europe, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, etc. Ce soir, donc, c'est une première partie d'une série d'émissions sur l'Europe. Ce soir, c'est la Grèce. Voilà. Donc, on va faire un premier tour de table un petit peu pour parler un petit peu de la situation. On va commencer par la situation politique en Grèce, hein, puisqu'effectivement, il y a plusieurs... les électeurs vont aller aux urnes au mois de juin pour élire une assemblée. Ensuite, nous parlerons également de la question de sortir de l'Europe ou pas, hein, pour la Grèce. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas utile? Est-ce que c'est vraiment un effet d'annonce de l'Allemagne ou pas de faire sortir la Grèce de l'Europe? Et nous parlerons bien sûr du plan d'austérité qui se trame en Grèce, qui a déjà commencé, puisque maintenant, effectivement, on parlera effectivement du problème des salaires en Grèce, et puis de l'abaissement, de l'augmentation des impôts, et puis de la misère surtout.
Et de la baisse du niveau de vie.
Et la baisse du niveau de vie, c'est ce que je voulais dire. Merci Ludo.
Sachant que c'est quand même le deuxième ou troisième plan de rigueur qui arrive.
Absolument, tout à fait. Alors, on va commencer avec toi, Ludo, si tu me permets. On va commencer un peu pour parler de la position de ce qui se passe en politique intérieure en Grèce.
Tout à fait. Alors, je parle sous le contrôle d'Anastasia, hein, qui est grecque et qui maîtrise un peu mieux. Donc, en fait, le 6 mai, c'était le jour de l'élection présidentielle française.
C'est exact.
Donc un grand moment. Mais non, en fait, c'était aussi le résultat des élections législatives en Grèce. Et pour l'Europe, c'était peut-être un moment qui était plus important que l'élection française, puisque le parti traditionnel, le parti socialiste, le PASOK, le parti socialiste grec, en fait, s'est effondré lors de ces élections. C'est lui qui était au gouvernement avant et qui avait convoqué ces élections. Et qui s'était tapé une crise de la dette, qui avait dû résoudre une crise de la dette et donc qui avait dû adopter le diktat européen. Et lors de ces élections, il a perdu une grande partie de ses voix, de sa majorité, au profit du parti de centre-droit. Et surtout d'une nouvelle formation qu'on a découvert ici en Europe à l'occasion, qui est le parti Syriza.
Qui est d'extrême gauche, on va dire.
Voilà, qui est un parti d'extrême gauche, qui est un peu différent du parti communiste. Extrême gauche, on peut discuter sur le thème, mais en tout cas, ce n'est pas le parti communiste traditionnel grec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est possible sans ce parti. Puisque les deux partis traditionnels n'ont plus la possibilité d'avoir la majorité absolue en formant une coalition c'est ce qu'ils auraient aimé faire, mais voilà, la crise étant passée par là, leur électorat s'est tellement réduit comme une peau de chagrin qu'ils sont obligés de faire appel à des partis qui ne sont pas en faveur de l'austérité. Or, suite à l'échec d'une coalition qui regroupe un peu tous les partis grecs, le président grec a reconvoqué des élections législatives
pour le
17 juin. Voilà, et jusqu'à maintenant, les sondages donnaient le parti Syriza en tête.
Alors, qu'est-ce que le Syriza, alors, un petit peu, dis-moi, Anastasia.
Pour faire un peu d'étymologie, c'est Syriza, ça veut dire la coalition de forces radicales de gauche. Autrement dit, un front d'unité et sociale. Il est composé d'une dizaine de composantes, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et il réunit en son sein donc plusieurs groupes de gauche radicale, comme le nom l'indique, oui. Mais qui, de mon point de vue, ce n'est pas l'extrême gauche. Il ne faut pas non plus exagérer.
D'accord.
Alors oui,
Je pensais à Mélenchon en passant. En pensant à ce parti, est-ce que il y a un rapport entre ce qu'on pourrait appeler le parti de gauche de Mélenchon
Mélenchon n'est pas extrême gauche non plus.
Oui, c'est vrai.
Donc,
en tout cas, enfin, ce qu'on voulait dire par extrême gauche, c'est parti.
De la gauche,
sont des partis de gauche,
oui.
qui ont quand même des racines, et d'ailleurs certains portent le nom communiste dans leur titre,
oui.
Ou qui le portaient auparavant et qui ont changé après. Alexis Tsipras, le chef du parti de Syriza, plutôt de la coalition de Syriza, a été dans sa jeunesse membre de l'organisation communiste pour le quitter ensuite et pour rejoindre un autre parti qui s'était formé suite à la scission qu'il y a eu en Grèce au sein du parti communiste, puisqu'il y a eu le parti pro-stalinien qui reste encore aujourd'hui une sorte de parti très fermé sur lui-même, qui n'a pas fait son autocritique comme l'a fait le Parti communiste français, par exemple.
Mm-hmm. Et pourtant, le Parti communiste français a mis du temps.
Oui, 75, ils sont bons.
Voilà, et en Grèce, il y a une scission des communistes et ceux qui étaient plus proches à l'eurocommunisme, en fait.
D'accord.
Qui s'appelait, donc on avait deux partis communistes, celui qu'on appelait de façon un peu schématique le parti communiste de l'extérieur pour signifier les partis pro-soviétiques et le parti communiste de l'intérieur qui était plutôt pour une politique indépendante et nationale et européenne.
Mais quel problème va-t-il présenter devant les électeurs dans le cadre
Je pense que Tsipras représente plutôt ce passé-là,
d'accord.
Cette tradition-là du parti communiste de l'intérieur. Et non pas de l'extérieur, puisque ce parti, le Parti communiste grec, aujourd'hui, il est contre Syriza et il a engagé une sorte de
bras de fer, oui.
Bras de fer, et il a refusé de collaborer malgré la proposition qu'il a reçue de la part de Syriza. Et moi, je trouve que c'est très triste qu'il n'y a pas une vraie collaboration entre toutes les forces de la gauche. Mais bon, déjà, il y en a une entre plusieurs forces de la gauche radicale et écologique. Et au point où, il y a des chances qu'ils puissent, si on le laisse, arriver au gouvernement. Ce qui n'est pas sûr, puisque maintenant, Mme Merkel, elle fait peur aux gens en demandant un référendum il y a quelques heures.
On l'a vu ça, effectivement.
Pour savoir si... elle demande quelque chose qui est inadmissible. On se demande qu'est-ce qu'ils vont faire encore pour empêcher un gouvernement de gauche d'accéder au gouvernement un jour en Grèce. Elle demande donc un référendum parallèlement aux élections pour que les Grecs décident s'ils veulent rester ou non dans la zone euro. Ce qui est complètement impossible. Le gouvernement de service qui est en place n'a pas le droit de faire un référendum. Donc c'est du baratin. C'est pour impressionner les gens, pour les empêcher de voter à gauche.
Voter à gauche.
Voilà.
Alors tu disais en antenne que le parti communiste... de l'extérieur, comme on dit, c'est ça. Alors, en tout cas, le parti communiste-léniniste était tout à fait opposé à l'Europe et était pour la sortie de l'euro.
Oui, ils sont toujours pour la sortie de l'euro et contre l'union, l'appartenance de la Grèce à l'Union européenne.
Là, et c'est ce qui différencie en fait du parti Syriza.
Syriza, il ne veut pas sortir de la. Il ne veut pas faire partir la Grèce ni de la zone euro ni de la communauté de l'Union européenne. Il veut par contre transformer l'Union européenne d'une union basée sur les finances à l'Europe sociale.
Une Europe plus démocratique, et plus fédéraliste. Alors, aussi.
Est-ce que le parti Syriza va présenter aux élections législatives un programme du genre, nous sommes pour la sortie de l'euro
Non, pas
non.
Du tout.
Ah, pas du tout, d'accord.
Non, ils ne sont pas du tout... partisans de la sortie de la zone euro.
Là,
j'en ai parlé encore tout à l'heure avec une candidate qui fait partie de la liste des candidats aux élections. Encore aujourd'hui, la première mesure que veulent prendre, ce n'est pas la sortie de la zone euro. D'abord, c'est stopper ces mesures barbares d'austérité qui ont plongé le pays dans un grand désastre. renégocier
la dette.
La dette, oui, bien sûr.
Oui, tout en supprimant une partie qui est considérée comme une dette odieuse.
Bien sûr.
On va en reparler.
Quitte à rembourser une partie de la dette, mais une fois qu'il y aura eu un contrôle sur la dette, sur son origine, sur sa nature.
D'accord. Et un audit de la dette, un audit citoyen de la dette, comme en France, comme le plan d'attaque en France. Alors oui, effectivement.
Il y a 10 points principaux de son programme. Je pourrais vous mentionner rapidement, si vous voulez.
Tout à fait, oui.
D'abord, c'est formuler un bouclier pour protéger la société contre la crise.
Oui.
Donc, revenu minimum garanti et prestations pour le chômage, soins médicaux, protection sociale, logement et l'accès à tous aux services publics, ce qui est complètement remis en cause aujourd'hui. Des mesures de protection et de secours pour les ménages endettés, le contrôle des prix et des réductions de prix, réduction de la TVA, suppression de la TVA sur les biens de base de premier besoin. Ensuite, donc, éliminer le fardeau de la dette, comme on vient de le dire. D'abord, la dette est d'abord et avant tout un produit des rapports de classe et donc, dans son essence, elle est même inhumaine. Elle est produite par l'évasion fiscale des riches, le pillage de fonds publics et l'achat exorbitant des armes et équipements militaires. J'oublie le programme. Syriza demande immédiatement pour un moratoire de la dette. Négociation pour annulation de la dette, ne serait-ce que d'une grande partie. Avec une provision pour les fonds de la sécurité sociale et des petits épargnements. Règlement d'une partie de la dette avec des dispositions pour le développement économique et pour l'emploi. C'est-à-dire changement radical du rôle de la Banque Centrale Européenne. Interdiction de produits bancaires spéculatifs. Impôt pan-européen sur la fortune, les transactions financières et les profits. Et puis, réglementation au niveau européen de la dette de tous les États européens.
Merci. Et alors, on comprend qu'avec un programme pareil, Syriza fasse peur
à Angela Merkel. Exactement, oui.
Et puis, j'ai pas dit ça, on est au point 2. Alors, au point 3, redistribution des revenus, fiscalité des revenus importants, que les riches puissent payer des impôts un jour dans ce pays, et abolition des frais inutiles. Réorganisation et consolidation du recouvrement des mécanismes fiscaux. Imposition des fortunes de plus d'un million d'euros. Les grandes fortunes ne sont pas imposées. Il faut le savoir, ça, en Grèce, quand même, c'est une absurdité.
Il n'y a pas qu'en Grèce, malheureusement, pour l'instant.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a souvent l'image des grands armateurs grecs célèbres, qui marient les veuves de présidents américains et qui ont déjà, depuis le début de la crise, planqué leur argent au Luxembourg, par exemple.
Ou en Suisse.
Voilà. D'autres mesures, supprimer la confidentialité. Chez les banques, vous savez,
le secret bancaire.
Et traquer la fraude fiscale.
Est-ce qu'il y a vraiment un problème d'impôts en Grèce, comme on l'a dit dans les médias?
Oui, mais ce ne sont pas les plombiers qui ne payent pas leurs impôts, qui ont fait couler le pays quand même.
Ce sont les actionnaires qui ne payent pas leurs impôts, en fait.
Pardon?
Ce sont les actionnaires qui ne payent pas leurs impôts.
En général, ce sont les riches qui ne payent pas des impôts. Les petits salariés qui ont une fiche de paye ne peuvent pas ne pas payer leurs impôts. Vous voyez, tout salarié qui a une fiche de paye
paye son impôt, bien sûr.
Exactement.
D'accord. Écoute, je te propose un petit arrêt musical et ensuite on reprend la parole.
D'accord. Merci.
C'était la grande cantatrice Maria Callas, pas encore égalée. Voilà, donc elle est grecque, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette émission. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Nous parlons ce soir de l'Europe, principalement de la Grèce, qui donc est dans une impasse aujourd'hui. Donc on va reprendre cette émission. Bonjour Anastasia.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Ludo.
Bonsoir.
C'est Gilles au micro et bien sûr Ness, Super Ness à la technique. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu sur... Tu avais pas fini le programme du
Non, je voulais...
Le programme de Syriza.
De Syriza, le parti le plus à gauche de l'Assemblée éventuellement.
Presque le plus à gauche.
Presque le plus à gauche.
Alors oui, on avait évoqué les quatre premiers points de l'engagement de Syriza si jamais il accédait au gouvernement en Grèce. Donc on a dit que ça serait formuler un bouclier pour protéger la société contre la crise, éliminer le fardeau de la dette, la redistribution de revenus, la fiscalité de la richesse et l'abolition des frais inutiles, et la reconstruction sociale, environnementale et de production par la nationalisation, socialisation des banques.
Alors moi, il y a une chose qui me frappe à l'écoute de ce programme, c'est que j'ai l'impression qu'aucune de ces mesures ne peut se faire sans l'Europe, en fait. C'est-à-dire sans l'accord d'autres pays, non pas sans l'accord, mais sans que d'autres pays européens soient un peu sur la même ligne.
Mais Syriza veut se battre au sein de l'Europe. Il ne veut pas quitter l'Europe.
Donc c'est la victoire de Syriza doit donner le départ d'un appel d'un changement en Europe vers des politiques différentes.
Une Europe plus sociale et pas voilà.
Oui, je pense que c'est il mise sur.
Et c'est pour cette raison qu'il a demandé à parler à François Hollande.
Ah oui, ou lundi il parle avec Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il est lundi prochain. À 21 mai, à 18h30, il y a un rassemblement devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot à Paris. Et là, Alex Tsipras de Syriza va prendre la parole. Il y aura aussi des prises de parole de la part de Jean-Luc Mélenchon et de Pierre Laurent, je crois.
Oui, qui est parti communiste
français. Parti communiste français, oui.
Voilà. Et ensuite, il y aura un rassemblement, une réunion, des discussions avec d'autres organisations politiques, syndicats, etc. Et pour mardi, avoir la même chose à Berlin.
Oui, pour essayer.
Donc voilà, ils essayent de faire une coordination au niveau européen, un front de gauche au sein de toute l'Europe.
Sans vouloir faire de politique politicienne, hein, parce que c'est vrai que dans cette émission ça ne nous intéresse pas forcément, mais on a compris qu'en fait en Grèce c'est un régime parlementaire, donc c'est des coalitions gouvernementales. Alors qu'est-ce qui peut se passer si Syriza gagne les élections? Avec qui? Quel autre parti il peut s'associer? Est-ce qu'on va ou non vers un blocage?
D'autant qu'on lui donne déjà 25% des voix possibles.
Alors,
si jamais,
Peut-être que vous allez pouvoir conclure par vous-même si je vous cite les autres points de la politique qui veulent bien me mener.
Oui, bien sûr, excuse-moi.
C'est l'entête du parti Syriza.
Donc, voilà. Il parle donc, on verra si ce sont des choses qui peuvent être appliquées, mais de la nationalisation, socialisation des banques et leur intégration dans un système bancaire public en vertu du contrôle social dans le but de servir des fins de développement. Pour Syriza, la recapitalisation des banques est un scandale qui doit cesser immédiatement. Il demande aussi la nationalisation de toutes les entreprises publiques d'importance stratégique qui ont été privatisées auparavant. L'administration des entreprises publiques basée sur la transparence, le contrôle social et la planification démocratique. Donc l'emploi stable avec des salaires décents. Aujourd'hui, vous savez que les salaires en Grèce sont complètement visibles.
On va en parler, oui.
La transformation écologique du modèle de développement. Cela inclut une transformation dans les secteurs de la production d'énergie, notamment. Plusieurs points, mais c'est approfondir la démocratie des droits politiques et sociaux pour tous. Amélioration de la situation des femmes, des jeunes, des immigrés, une réelle décentralisation et un gouvernement local avec des ressources réelles. Ensuite, démilitarisation, démocratisation de la police, hein, qui, ce qui n'a jamais vraiment eu lieu depuis la dictature, malheureusement.
Oui, parce qu'il faut préciser que Syriza donc, est une démocratie depuis 1974, et qu'il semblerait que l'appareil policier soit encore marqué.
La Grèce, a traversé une dictature de 1967 à 1974.
Et la police, semble-t-il, est encore marquée par les pratiques...
De tortionnaires.
C'est pas le cas.
Oui, on a eu de morts souvent manifestations.
C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, en Grèce, on n'a jamais voulu qu'un gouvernement de gauche soit élu. C'est ça, un peu plus ou moins, tu nous en avais parlé. Enfin, on en reparlera peut-être plus tard, mais bon. Enfin, bon.
Et oui, vous savez, c'est Castoriadis qui disait que oui, que les Grecs n'ont pas eu vraiment une vie politique digne de ce nom depuis la période d'Athènes de Périclès. D'accord. Où vraiment, là, les citoyens pouvaient avoir une implication réelle dans la vie politique. Et que depuis, c'est vrai que depuis la fondation de l'État de la Grèce moderne en 1830, si vous voulez, on pourra en parler.
On en parlera tout à l'heure, oui, effectivement.
La vie politique des Hellènes, elle est très compliquée.
Alors, à moins que tu aies pas t'es fini, t'as fini sur
alors,
ton programme.
Donc en gros, il demande aussi l'État-providence puissant, hein, avec tout ce que ça peut vouloir dire. En France, on a eu des exemples. Mm-hmm. La santé, donc, est un bien public et un droit social et doit être défendu. Et la protection de l'éducation, de la recherche, de la culture, voilà, des choses simples comme ça. Et puis, surtout, et ça c'est important, une politique étrangère indépendante, engagée dans la défense de la paix, et notamment fond de la coopération militaire avec Israël. Voilà.
D'accord. Alors, justement, c'est un beau programme, ce qui pourrait être mis en route, si même s'ils gagnent une partie des élections, parce qu'ils auront peut-être la majorité à 25% ou 28%, on ne sait pas. Voilà, mais ils seront quand même, comme nous disait Ludo tout à l'heure, effectivement obligés de tenir compte des autres partenaires de l'Europe. Ludo, tu voulais en dire un mot sur...
Alors justement, non, on a l'impression en fait qu'en Grèce, c'est peut-être l'avant-garde de ce qui peut... On dit souvent de ce qui peut arriver en Italie, en Espagne, au Portugal et voire en France. C'est-à-dire qu'on a toujours un affrontement entre des partis qui sont pro-européens et qui verrouillent le jeu politique et des partis qui finalement commencent à remettre en question cette Europe-là. Et il faut vraiment, apparemment dans le cas grec, une crise majeure pour que ces partis-là puissent se faire entendre. Et donc, dans le programme de Syriza, un aspect qui est quand même important, c'est la remise en cause de la légitimité de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun dirigeant européen ne dit sincèrement que cette dette doit être effacée. Une dette qui continue à se creuser aujourd'hui. C'est-à-dire que les mécanismes d'austérité provoquent de la dette. Donc,
c'est bon.
Il n'est pas certain que le prochain plan d'austérité grec ne conduise, n'évite la sortie de la Grèce de l'euro. Donc là, justement, en quoi, dans l'histoire grecque, quelle est la part de la dette odieuse selon vous? Quelle est la dette est acceptable, la dette odieuse? Quelle va être la revendication que va porter Syriza devant les dirigeants européens?
D'autant plus que la dette grecque est de 356 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien.
Ça fait 161% du PIB.
Exactement.
Et ça a bon. Enfin, qui a abondi depuis le début de la crise. Alors
Oui, là, vous me posez une question bien technique. Dans la mesure où il n'y a pas eu encore d'audit de la dette, Syriza lui-même, ou je pense encore moins moi qui suis une simple citoyenne grecque vivant en France, qui suit les nouvelles avec grande émotion et avec un sentiment quand même de ras-le-bol général. Et une prise de conscience de ce qui nous attend, nous tous, en Europe, en France aussi. Donc, je ne peux pas vous dire quelle hauteur de la dette pourra être considérée comme dette odieuse. Mais
Il s'agit bien d'en effacer une partie, en tout cas.
Ah, ben, certainement, puisque cette dette-là, elle a été conclue. Il faut voir selon quels critères, pour servir quoi. Est-ce que cette dette a servi vraiment les intérêts du peuple grec, de la de l'État grec.
Oui, mais on pourrait déjà supprimer effectivement les intérêts de la dette déjà, ce serait déjà pas mal.
Par exemple, est-ce que ça ne sert pas à payer d'abord les intérêts de la banque et la spéculation financière qui a lieu? Vous savez très bien que en 2008, en Grèce aussi, les banques ont été renflouées de fonds qui sont passés où?
Recapitaliser, effacer leur dette, mettre en sécurité les banques françaises et allemandes.
Non, mais attendez, c'est ce qui se passe, c'est quand même gravissime.
Absolument.
C'est mon pays, je suis désolée, mais je le sens froid, mais il traverse une période extrêmement dramatique où des gens qu'on pouvait jamais imaginer aujourd'hui ont faim, on ne peuvent pas payer leur facture d'électricité parce que ils font quand même partie de ce qu'on peut appeler la classe moyenne qui est en voie de disparition totale. J'ai une amie qui est professeure d'université qui ne peut plus payer son téléphone.
C'est bon.
Juste
à propos de l'austérité, parce qu'on parlait de l'austérité, des plans d'austérité dû effectivement à ces problèmes de dette. Il faut savoir par exemple que il y a une chose qui va être faite, c'est de baisser les impôts de 12 000 à 8 000 euros. C'est-à-dire que les gens qui touchaient
par an.
C'est-à-dire que les gens qui touchaient 1 000 euros par an en Grèce payaient des impôts.
Oui.
Donc déjà, et là ils vont le baisser à 8 000, c'est-à-dire que c'est des gens qui touchent entre 600 et 700 euros par mois qui vont être obligés de payer des impôts. Donc c'est une catastrophe pour eux parce que c'est un manque à gagner. Il y a une baisse de 22% des salaires minimums. C'est quoi le salaire minimum en Grèce en moyenne?
Est-ce que c'est 400 euros?
400 euros.
Le prochain plan d'austérité doit le fixer à 500 euros brut.
C'est dingue, c'est de la folie.
Oui, alors, parle en net.
Bien sûr.
Alors, il y a deux autres choses qui m'ont quand même frappé parce que c'est quand même assez frappant. Effectivement, c'est quand même la suppression de 15 000 emplois supprimés dans le public, ce qui est bon fait aussi en France avec Sarkozy. Il y a eu une déréglementation générale du marché du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de code du travail, etc.
Non, plus de convention collective, c'est supprimé.
Donc, comment s'en sortent un petit peu? Tu m'as dit que tu avais hors micro des amis qui pouvaient t'accompagner leur vie, le problème de manger tous les jours, etc. Comment vit un Grec aujourd'hui en Grèce? En quelques mots, comment ils se débrouillent pour bouffer tous les jours et subvenir à ses besoins?
Eh bien, ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde. Il y a différents cas de figure. Évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation. Les plus démunis, ils sont aujourd'hui des sans-abri, ceux qui étaient simplement pauvres. Et vous savez, il y a plus de 25 000 sans-abri à Athènes aujourd'hui, des Grecs.
25 000 sans-abri.
Quoi vous dire d'autre? Il y a des enfants dans les écoles qui s'évanouissent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Il y a un taux des suicides qui a augmenté de je ne sais plus combien.
20%, c'est ça. Sur 5.
Voilà, vous avez eu ces suicides.
Un jeune sur deux qui est au chômage.
Ouais. Un jeune sur deux au chômage. C'est des chiffres comme.
Oui, avec un taux de chômage de 22%.
22% de chômage, oui.
Et alors, on disait, c'est finalement dans les années juste 2000, 90-2000, voire 2008, il y a eu une croissance grecque. On a parlé de miracle grec. On a dit que les comptes de la Grèce, c'est les premiers ministres grecs qui ont dit ça, mais
ils ont falsifié les chiffres. Le pays n'a jamais eu une économie forte, vous savez. Je me souviens quand j'ai vu encore en Grèce il y a 20 ans, on était un pays pauvre, mais pauvre au soleil et autonome, donc c'était très bien. C'est bien là de vivre modestement et de n'avoir besoin de personne. Et d'avoir ces beaux ciels, ces belles lumières qui fait qu'on a le moral quand même. On se réveille et c'est le bonheur. Parce que, vous savez, c'est pas rien le
surtout
ciel bleu.
Surtout si on vit à Paros.
Oui, mais Athènes, c'est toujours c'est tout de suite la bonne humeur. Même si, on n'a pas tous ces produits à consommer, ni
donc
cet argent à dépenser qu'on peut
avoir. Tu es en train de nous dire que le grec est un tempérament chaud et de bonne humeur, il est joyeux en général, d'une façon générale ou...
Je pense que des natures, oui, si on vit dans un tel environnement,
c'est vrai que ça aide.
Ça aide, oui. C'est pas la grisaille de Paris où vous levez le matin et vous dites oh mon Dieu.
Oui, en fait, on travaille parce qu'on est déprimé.
Non, je n'ai pas dit que les Grecs ne travaillent pas, mais j'ai dit, j'ai connu mon pays à une période où l'économie n'était pas encore on n'était pas entré dans l'euro encore. Mmh, mmh, on était.
C'est peut-être ça qui fait la différence, finalement.
Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'euro, en effet, parce que tout a été. La vie est devenue beaucoup, beaucoup plus chère et les salaires n'ont pas augmenté. Par contre, les prix de produits de consommation ont complètement explosé, sont devenus les mêmes qu'en France. Mais les salaires sont restés. Ils n'ont pas augmenté pour autant. Il y a eu les Jeux Olympiques qui ont coulé aussi pas mal l'économie du pays parce qu'il y a eu des frais très très importants à subir.
Et à la charge de la collectivité.
À la charge de la collectivité.
Qui en ont profité.
Alors on a vu, juste un aparté comme ça, on a vu quand même les Grecs. Pas mal se révolter ces derniers jours, enfin ces derniers jours,
ces dernières années.
Ces dernières années, effectivement, donc manifestations. On dit que maintenant que la gauche, les gens qui sont à gauche de la gauche, on va dire en Grèce, les militants, hein, ou même les gens qui se sentent investis par cette.
Moi, j'ai l'impression que la moitié du pays devient militant.
Exactement, tout à fait. Mais on dit qu'il y a une radicalisation dans cette gauche et qu'effectivement, elle serait, paraît-il, en tout cas, il faut vérifier maintenant ce qui est dit, pas armée, mais en tout cas, qu'elle commencerait effectivement à réagir d'une façon un peu plus violente que dans le passé.
La Grèce a toujours été violente. Vous savez, dans sa vie politique, c'était pas une vie politique sereine.
Mais c'est vrai que
je pense qu'on a traversé une période d'un certain conformisme où les gens étaient un peu endormis, pas tous, hein, mais une grande partie de la population était un peu. Elle a voulu jouer le jeu de le développement économique, la technologique, tout ça, l'Union européenne, donc
de la modernité.
J'emprunte à la banque parce qu'on m'offre des prêts, des crédits sur le trottoir des banques et sans demander des revenus minimums ou garanties, etc. Je m'endette pour consommer, c'est vrai.
Oui, tu me disais au micro que finalement l'arrivée dans l'euro a favorisé le crédit facile, mais que c'était presque un encouragement qui venait d'en haut, c'est-à-dire il faut consommer pour faire tourner l'économie,
mais bien sûr.
Acheter des produits européens.
D'un seul coup, moi j'ai vu naître des coutumes que je ne connaissais absolument pas. Par exemple, aller faire du ski, partir en vacances en Thaïlande. Pour nous, voyager à l'étranger quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un énorme exploit. C'était très très cher le billet d'avion. Il y a eu un conformisme qui s'est installé dans les années 80-90.
Est-ce qu'il y a en Grèce comme en France, on a un salaire minimum qui est censé être le SMIC, bien qu'il y ait une précarité maintenant. Les gens touchent beaucoup moins que le SMIC, puisque c'est maintenant le SMIC horaire, donc les gens peuvent travailler 10 heures par mois, etc. Est-ce que vous avez également chez vous l'équivalent du RMI ou du RSA ou des choses comme ça pour les plus démunis? Est-ce qu'il y a des aides d'État du genre pour le premier enfant ou des choses comme ça?
Oui, ça m'a toujours fait rire, la comparaison des chiffres.
Je ne sais pas, je pose la question comme ça.
Il n'y en avait pas pendant longtemps.
Oui.
Il y en a eu à un moment donné, mais les chiffres étaient complètement symboliques par rapport à la France. Comme moi, j'ai dit ce que je touche... ici, quand je suis, il m'arrive d'être en tant qu'intermittent des spectacles, de toucher des allocations de chômage. Ça n'a rien à voir avec ce que touchent mes collègues en Grèce. C'est vraiment dérisoire ce qu'ils touchent. Ils ne peuvent pas. Et on ne peut pas comparer.
D'accord.
En France, il y a eu un État-providence qui a été mis en place à un moment donné. Et même s'il a été complètement dégradé avec le gouvernement qui l'ont attaqué, il existe encore. Oui. En Grèce, c'est vrai que le Parti Socialiste, au tout début, quand il est arrivé au gouvernement, il a essayé de prendre des mesures dans ce sens-là pour créer un État-providence qui n'existait pas chez nous, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait que des gouvernements de droite hyper sévères. Et puis, si tu es riche, tout va bien, mais si tu es pauvre, tu te démerdes ou tu émigres, tu vas travailler en Australie ou en Allemagne et basta. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 11 000 millions d'habitants en Grèce et presque 10 millions dans la diaspora.
D'accord.
Et que les, ça je tiens à le dire, que les Grecs de la diaspora, qui ont encore la citoyenneté grecque comme moi, ils ne peuvent pas voter depuis leur consulat, depuis leur état de résidence.
Et pourquoi ?
Et parce qu'on ne veut pas de nous. Les partis politiques qui se sont installés, les deux grands partis politiques, donc de la Nouvelle Démocratie, la droite et le PASOK, le soi-disant Parti Socialiste, ils voulaient surtout pas que des Grecs de la diaspora qui n'ont pas des intérêts précis au sein du pays et qui donc ne peuvent pas jouer les jeux du clientélisme politique puissent voter selon leur conscience. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité des Grecs qui ont immigré, c'était des gens de la gauche. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, comme il y a eu la guerre civile en Grèce entre la gauche et la droite, ça a fini par la défaite des communistes de la gauche et des communistes en Grèce, et tout le monde, la moitié de la population était fichée, hein, et ils devaient partir parce qu'ils trouvaient pas du travail, ils pouvaient pas aller à l'université, donc on n'allait pas quand même laisser ces Grecs là voter, hein, quand même pas.
Je te propose, écoute, je te propose une petite un petit intermède musical et puis on prend la parole sur l'euro après.
D'accord.
Je te remercie.
D'accord.
Κι ανάμεσα σε μαλακά, σκεπάσματα.
Et non, ce n'était pas Radio Notre-Dame, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs très précaires. C'était une chanson effectivement assez lente, mais qui est sublime parce que c'est quand même une des plus grandes chanteuses grecques aussi, c'est Angélique Ionatos, hein, évidemment. Voilà, donc Sappho de Mytilène, ça s'appelle le CD. Très bien, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs précaires. Je suis avec Anastasia, qui est effectivement metteur en scène aussi, je sais pas où je le rappelle.
Et comédienne,
et qui va nous présenter son spectacle en fin d'émission, voilà. Et on parle de la Grèce aujourd'hui, donc j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur comment l'État grec en est arrivé là aujourd'hui, parce qu'il a un long passé, une longue histoire de soumission quelque part. Je sais pas comment
surtout,
on pourrait dire ça.
Surtout, c'est toi qui nous disais finalement que les Grecs ont un sentiment de presque d'humiliation de voir encore une fois les puissances européennes décider de leur destin, et ce finalement presque depuis la création de l'État grec. En fait, toute l'histoire grecque contemporaine est marquée par l'intervention des grandes puissances anglaises, françaises, voire russes, plus ou moins.
Allemandes,
oublie bien entendu. Et dès sa création, quoi.
Malheureusement, je ne suis pas qualifiée, puis on n'a pas le temps non plus de tenter un cours de l'histoire de la Grèce moderne, de l'état de la Grèce moderne depuis sa création en 1830, mais quand même on peut...
Les grandes périodes peut-être, juste...
Certains grands épisodes marquants dans la conscience.
Voilà, des façons un peu schématisées et sans doute simplifiées et simplistes, que les historiens me pardonnent. Mais moi, ce que je retiens, c'est que, une longue période de 4 siècles d'occupation ottomane, il y a suite à une guerre d'indépendance contre les Turcs de 9 ans, en 1830, il y a la création de l'État de la Grèce moderne, avec un gouverneur, un Capodistrias, élu selon les principes de la
constitution, d'une assemblée.
D'une assemblée nationale, en effet, et qui avait fait un peu la synthèse des constitutions existantes à l'époque, française, états-unienne, et puis la constitution de Périclès d'Athènes. On est en pleine époque de monarchie en Europe, et c'est une sorte de défi et de provocation. Le fait de voir se créer un nouvel État qui s'appelle Grèce, bon, hélas.
Il faut rappeler que c'est la Sainte Alliance à l'époque, la Grèce, c'est-à-dire après la victoire de Napoléon, c'est les grandes monarchies qui ont décidé de redessiner la carte européenne selon leurs critères.
Et certes, les forces alliées européennes de l'époque nous ont aidés pour les Grecs tout seuls ne pourraient pas vaincre, enfin, pardon,
n'auraient pas pu vaincre,
combattre l'armée turque, mais ottomane, mais donc, militairement, ils nous ont aidés. Mais voir après la création d'un État qui s'appelle République hellénique, avec tout le poids du symbole antique, du mot république, en grec c'est démocratie, hellénique démocratie, eh bien, ça fait quand même mauvaise impression. Donc, il n'était pas question de laisser une démocratie aussi représentative soit-elle, et non pas directe, comme à l'époque de Périclès. C'était pas possible de la laisser exister comme ça, comme une provocation qui donnerait les mauvais exemples aux autres peuples européens pour demander eux aussi une démocratie à la place de la monarchie. Du coup, le premier gouverneur a été assassiné bizarrement, au bout de quelques mois de gouvernement, par un bras armé grec, certes, mais qui aurait pu être, on ne sait pas...
Diligenté par une puissance étrangère.
Voilà.
D'accord.
Et nous sommes conscients que la France, l'Allemagne étaient très contents de voir que le pays était sans chef et que les Turcs rappliquaient et que le pauvre grec, on se dit au secours, aidez-nous. Alors, les amis européens disent on vous voulait qu'on vous aide, eh bien oui, mais vous allez prendre un roi et c'est fini les histoires de démocratie. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les Grecs ont dit nous n'avons pas de roi. Des rois, le dernier empereur byzantin est mort et enterré depuis 4 siècles. Qui voulez-vous qu'on mette comme roi? Eh bien, ils nous ont dit on va vous donner un. Voilà. Et Otto le premier de Bavière, roi allemand, bavarois, a été imposé en Grèce 40 ans de monarchie absolue, sans constitution, aucune. Un règne d'une main de fer. Le jeune Othon, il avait 16 ans quand il est arrivé, donc c'était des régents qui régnaient à sa place le temps qu'il soit adulte. Après, il a eu tout le temps, 40 ans, donc de 18 ans.
56 ans, il est sorti à 56 ans.
Voilà. Et puis, au bout de quelques révoltes sanglantes quand même du peuple hellénique, on nous a enfin accordé une constitution, parce que le contexte aussi européen l'imposait. Du coup, on est devenu une royauté constitutionnelle, c'est bien cela le terme.
Voilà. Monarchie
constitutionnelle.
C'est pareil.
Et ensuite, bon, il y a eu. C'était très très évocateur de la vie politique de la Grèce moderne, la création de premiers partis politiques. Ils n'avaient pas des titres normaux, disons, entre guillemets, par exemple, je ne sais pas, les partis républicains, ou je ne sais pas. C'était le parti français, le parti anglais, le parti russe, le parti allemand. C'était les partis qui défendaient les intérêts des puissances étrangères qui sur le sol hellénique.
D'accord.
Voilà. C'était ça, la création des partis, ça servait à ça au début. Donc, introduction du clientélisme. Bah, les gens s'en fichaient de voter pour un tel ou un tel. Ils ne proposaient pas un projet de société, mais plutôt de protéger, défendre les intérêts d'un tel ou tel pays. Donc du coup, le citoyen grec disait qu'est-ce que tu me donnes si tu veux que je vote pour toi? Qu'est-ce que j'aurai en échange? Et il se dit, tiens, on va mettre ta fille à l'administration publique, par exemple. Alors tu ne paieras pas des impôts, toi. Voilà, par exemple.
Tu essayes de nous dire que ça vient de loin, le fait de placer les gens dans l'administration.
Oui.
De
ne mais c'est impôts. Ça, c'est la vie politique des Grecs modernes, c'est faussé dès le départ. Hein. Mmh. Bon, après, il y a eu les partis ont changé de nom.
Tout de même, hein, quand même, dans l'histoire de la Grèce, il me semble qu'il y a une période qui est importante, c'est la naissance du mouvement ouvrier, notamment du Parti communiste grec, qui est un parti très très puissant. Bon, alors après, je ne sais pas, mais qui en tout cas, à la veille de la guerre en 1945, est rejeté, hein, du fait que la Grèce soit rejetée dans le coin occidental et
exterminée. Oui,
est
à la fin de la guerre. Oui, tout à fait. C'est vrai que, oui, il y a eu. Il y a eu ces forces politiques en Grèce qui ont combattu le nazisme aussi, parce qu'il faut rappeler que la résistance contre les nazis, elle a été majoritairement prise en charge par la gauche en Grèce, le Parti communiste, et que du coup il y avait une très grande approbation, admiration de la majorité des gens par rapport à ces combattants résistants, et qu'il devait y avoir des élections après la Deuxième Guerre mondiale, mais comme notre pays faisait, voilà, le destin du monde avait déjà été joué à Yalta, hein, vous connaissez l'histoire.
Oui, tout à fait.
Donc la Grèce faisait partie du bloc occidental. Et donc, il n'était pas possible d'admettre un gouvernement de gauche dans un pays du bloc occidental en pleine guerre froide. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand nos alliés se sont rendus compte que la Grèce, quand même, avait une forte chance qu'elle passe à gauche, si on respectait les systèmes des élections? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Les Anglais ont bombardé le Pirée et d'autres endroits, et une guerre civile épouvantable a commencé entre d'une part les forces de gauche avec les communistes comme la partie majeure d'un côté, et le royaliste et les Anglais de l'autre. Ça a dévasté le pays qui était déjà dévasté. Ça a créé une grande fraction au sein de la population. Vous voyez ce que c'est une guerre civile?
Oui, une guerre civile, c'est terrible.
Entre supporters de...
Les gens de même famille qui s'entretuent, quoi, ça peut s'allier.
Voilà. Avec les îles d'exil remplies, des prisonniers politiques qui sont torturés, ou alors la moitié de la population qui est obligé de s'exiler, de partir, parce que, comme je vous disais, ils ne trouvaient plus de travail, ça dans les années 50 encore, beaucoup, puisqu'il suffisait d'avoir un membre dans la famille qui avait été du mauvais côté, toute la famille était fichée. Voilà. Et par exemple, moi personnellement, j'avais un oncle dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à l'âge de 12 ans. Parce que personne ne parlait de lui dans la famille. C'était
un secret de famille, tu vois.
C'était un secret de famille. Son nom était tabou. Il ne fallait pas le prononcer. Donc, moi et mes frères, on ne savait pas qu'il y a aussi ce membre de la famille. Pourquoi? Parce que, en effet, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que mon père et qui avait combattu contre les nazis, donc qui était résistant, qui ensuite a pris parti à la guerre civile, du côté de la gauche, qui a été dans les îles d'exil, prisonnier politique, et que mon grand-père avait payé une fortune à l'officier de la police qu'il connaissait, qui était voisin d'un quartier, pour qu'il puisse détruire le fichier de la famille Politi donc. Je m'appelle Anastasia Politi. Et ce que ça veut dire citoyen, citoyenne.
Pas vous. Il faut le rester.
Et puis voilà. Et puis, mais en revanche, il ne fallait plus jamais prononcer le nom de ce membre de la famille. Il fallait faire comme s'il était mort. Et c'est seulement à la fin de la dictature en 1974 que mes parents m'ont dit tiens, tu vas voir ton oncle. J'ai dit, quoi? Quel oncle? Ah bah, tu as un oncle.
D'accord.
Et ça fait un choc, je vous assure que ça fait un choc quand vous avez 11, 12 ans et d'un seul coup, paf, il y a un oncle.
Un oncle apparaît qu'on ne connaissait pas, oui.
Et qui vient en boitant sur sa canne parce qu'il a subi des tortures, parce que sa jambe ne fonctionne plus, et parce qu'il vous raconte avec en même temps un énorme humanisme. La joie de la vie, le bonheur d'être là, le plaisir d'apprendre, d'étudier, qu'est-ce qu'il avait vraiment sauvé en quelque sorte quand il était en prison dans les îles d'exil, c'était de lire les tragiques grecs par exemple.
D'accord. Excuse-moi Anastasia, je crois que l'émission prend fin là bientôt. Donc j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu ce que tu as mis en scène en fait. Tu t'es mis toi-même en scène, donc c'est quoi? C'est un one man show? C'est raconte-nous un petit peu ce que.
Je ne fais pas de one man show.
Quel est ton spectacle exact alors? Dis-moi un peu parce que c'est quand même important. Ouais. On en reparlera bien aussi dans ce puisque c'est il y a plusieurs dates, hein, donc on en reparlera dans cette émission.
Alors le spectacle que j'ai mis en scène cette année avec la compagnie Erina, qui est la compagnie que j'anime depuis 15 ans, qui est fondée à Paris et qui est toujours en Île-de-France aujourd'hui, s'appelle La flottille de Grèce à Gaza.
D'accord.
Et donc c'est un spectacle documentaire qui présente la chronique de la flottille de la liberté, cette opération
de bateaux humanitaires qui vont effectivement
opération citoyenne de solidarité internationale envers le peuple palestinien de Gaza, qui avait comme but de briser le blocus inhumain qu'Israël a imposé à Gaza depuis quelques temps. Et qui fait que les gens là-bas vivent en enfer, enfin vivent dans une sorte de prison à ciel ouvert.
C'est clair.
Donc bien pire que la Grèce.
Et donc la prochaine date, ce serait quand
La prochaine date, c'est le 16 juin à Mitry-Mauride. C'est à 17h dans le cadre d'une manifestation organisée par l'association mitrienne de solidarité France-Palestine. Nous avons créé les spectacles au mois de mars au Théâtre des Quartier d'Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne. On l'a repris au Théâtre municipal de Guyancourt, la ferme de Belleba et à l'espace Gendarme à Paris. Et il est question de le reprendre aussi à la rentrée prochaine au Théâtre de la Boutonnière, à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Et puis ailleurs aussi dans d'autres villes d'Île-de-France, à Bagnolet, à Nanterre. J'espère que ça va tourner un peu. Il est basé sur le livre de Thomas Sommer-Hauteville, La flottille. Et il est ponctué de poésie de Mahmoud Darwish, de Constantin Cavafy et d'Amir Hassan, jeune poète de Gaza.
D'accord. Bah, très bien. Écoute, de toute façon, les dates, on les redira dans ce micro.
Je te
remercie d'avoir répondu à notre invitation. Voilà.
Merci.
Tu reviens ici quand tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une radio ouverte. Voilà. Cette émission se termine, mais uniquement pour la rediffusion, parce qu'ensuite on a encore une demi-heure, mais on a du son à vous transmettre. Voilà, donc cette émission se termine. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à tout à l'heure.